Aujourd'hui, mercredi 13 juillet 2011, c'est la Sainte Eva Jolie. Sainte Eva Jolie est la sainte patronne, et même la sainte toute nouvelle patronne sur qui le patronat pourrait compter les yeux fermés en cas de défaillance de l'UMP, du Modem, du FN et bien sûr du PS. À une condition, qu'on ferme le robinet, qu'on utilise des ampoules basse consommation et que les pots de vin soient bio. Tout récemment lancé dans le monde impitoyable du panier de crabe des présidentiables et des coups bas, Sainte Eva Jolie est considérée comme une espèce de José Bové à lunettes, donc sans pipe. Spécialiste du retournement de veste malgré une très jeune carrière politique, passée de la droite Modem au centrisme verdâtre parce qu'il est paraît-il plus facile pour une femme de faire carrière dans un parti de gauche OGM, adepte de la moralisation du capitalisme, comme si on pouvait dire à Fukushima ou à Tricastin de modérer ses irradiations, otano-compatible grâce à ses amis députés qui ont voté à l'Assemblée nationale la prolongation de la guerre en Libye. Ah ouais, grâce à Sainte Eva Jolie, le capitalisme peut trembler. Tu peux numéroter tes abatis. Car Sainte Eva Jolie ne laissera pas faire le patronat. Il est révolu ce temps de l'impunité des financiers. C'est même pour ça qu'à une époque lointaine, elle avait appelé à voter Strauss-Kahn. Et avec un soutien pareil, eh ben on s'étonnera pas qu'il ait préféré la prison. Hein ? Quoi ? C'est une rumeur ? Ah, je me disais aussi. Et son mari, il est islamiste aussi ? Sainte Eva Jolie a été canonisée, et c'est tout à son honneur, grâce à ses grands discours de beau parleur, grâce au patronat reconnaissant, bien évidemment, mais surtout grâce à son électorat bovin, garanti sans farines animales, composé de petits bourgeois sans dioxine, déconnectés de la réalité à force de fumer du gaz de shit, de raisonnables moralisateurs de merde et adeptes à la con de l'ouverture aux différences et de la diversité, de partisans végétaux de l'abandon des classes populaires, c'est plus la sueur au bilan carbone catastrophique, et de petits branleurs bio qui, pour le moment, se croient bien à l'abri et bien loin des calculs de l'empreinte capitaliste. De vrais biocons. Aujourd'hui, mercredi 13 juillet, le soleil s'est levé dans le quartier des chiens où l'on ne fait que passer. Il va se coucher ce soir en vertu de quel pouvoir injuste que nous sommes, vous refuse-t-on les droits que l'on accorde aux hommes, comme d'aller se faire enculer. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur le www.campuslille.com.
La lune s'attristait, on comprend sa tristesse, on tapait plus dedans, elle se demandait quand est-ce qu'on va se rappeler de m'enculer. Dans mon affreux jargon, carence inexplicable, brillait par son absence un des pires vocables, c'est enculer, lacune comblée. Lâcher ce terme bas, Dieu sait ce qu'il m'en coûte, la chose ne me gêne pas, mais le mot me dégoûte, je suis désolé de dire enculé. Oui, mais depuis qu'Adam se fit charmer par Ève, l'éternel féminin nous emmerde, et je rêve parfois d'aller me faire enculer. Sous les coups de boutoir des ligues féministes, la moitié des messieurs brûle d'être nanistes, l'autre d'aller se faire enculer. À force d'être en but au tir des suffragettes, en son fort intérieur chacun de nous projette d'hélas aller se faire enculer. Quand on veut les trousser, on est un phallocrate, quand on ne le veut point, un émule de Socrate, reste d'aller se faire enculer. Qu'espère en coassant ces légions de grenouilles, que le royaume de France enfin tombe en quenouille, qu'on court aller se faire enculer. Y a beau jour que c'est fait, devant ces tyrannettes. On danse comme des pantins, comme des marionnettes. Au lieu d'aller se faire enculer, Pompadour, Montespan, La Vallière et j'en passe, talonnèrent le roi qui marchait tête basse, souhaitant aller se faire enculer. À de rares exceptions, nom d'un chien, ce sont elles qui, toujours mine de rien, déclenchent la bagatelle. Il faut aller se faire enculer. Oui, la plupart du temps, sans aucune équivoque, en tortillant du cul, ces dames nous provoquent. Mieux vaut aller se faire enculer. Fatiguées de souffrir leur long réquisitoire, ayant en vain cherché d'autres échappatoires, je vais aller me faire enculer. D'à partir de ce soir, cessant de croquer la pomme, j'embarque pour Cythère en passant par Sodome, afin d'aller me faire enculer. Afin qu'aucune de vous, mesdames, n'imagine que j'ai du parti pris, que je suis misogyne, avant d'aller me faire enculer. J'avoue publiquement que vous êtes nos égales, qu'il faut valider ça dans une formule légale. Je suis enculé, mais régulier. En vertu de quel pouvoir, injuste que nous sommes, vous refuse-t-on les droits que l'on accorde aux hommes, comme d'aller se faire enculer.
C'est toujours l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus. Et dès maintenant, je vous propose d'écouter un enregistrement qui a été réalisé la semaine dernière par nos camarades de la coordination communiste. C'est à l'occasion de la manifestation contre la fermeture de Sevel Nord à Valenciennes et de PSA d'Aulnay. C'était le 7 juillet donc 2011, c'était à Valenciennes. Voilà, donc vous allez entendre quelques militants CGT opposés donc à la fermeture de ces usines et plus généralement opposés à la casse de l'industrie en France. Tout début donc de ces interviews, vous allez pouvoir entendre Serge Piepla. Serge Piepla, c'est le secrétaire général de l'Union des syndicats de travailleurs de la métallurgie du Pas-de-Calais. Donc à tout à l'heure.
Ah, nous on est ici, bah, c'est suite à l'annonce de PSA, quand les camarades ont réussi à attraper ce fameux document confidentiel, comme quoi qui prévoyait déjà la fermeture de Sevel Nord en 2015, 2016, 2017. Et on sait que Sevel Nord, c'est 3000 personnes, avec emploi réduit, ça fait presque 10 000 personnes qui seraient concernées. Donc déjà une région très, très impactée par le chômage. Alors on se rend compte parce qu'au bout, si on va encore au bout des choses, après c'est les bureaux de poste qui ferment, c'est des hôpitaux en moins et tout ça. Donc vous voyez, au bout, c'est toujours le cercle sans fin du chômage. Et quand on voit que PSA, quand ils sont en difficulté, ben, ils savent venir voir l'État avec nos impôts, avec l'argent des travailleurs. On leur a donné 3,5 milliards d'euros qu'ils ont remboursé en un an de temps. Pendant ce temps, ils ont leur crise. Ils remboursent une somme faramineuse quand même hein, aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, le temps qu'ils demandaient les aides, ils avaient déjà prévu de fermer Sevel Nord et Aulnay. Donc c'est honteux. Mmh. Honteux. Donc on est là aujourd'hui ben, pour tout ça, hein, ben, pour toutes ces raisons. Ben pour toutes ces raisons et d'autres, hein. Mais notamment celle-ci, autre, ben c'est toujours l'emploi, les salaires et tout ce qui va avec, quoi. Avec tout ce que subit aujourd'hui la classe ouvrière. Hein. Donc les vacances, on a déjà de moins en moins parce qu'on passe de plus en plus de temps à l'usine. Donc, même nos week-ends, maintenant c'est l'usine, alors qu'avant on avait des camarades sont morts, avant on avait le week-end, et ça on revient il y a 200-300 ans en arrière. Hein, parce que le capital avance, hein, enfin ça plus rien. Donc voilà.
Et c'est quoi vos attentes par rapport à cette... Dans la symbolique, qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être présent ici?
Ah bah nous d'être présents ici, déjà la préparation d'autres journées, à la rentrée, et surtout nous on veut c'est sauver le... Nous on veut à ce que ce site reste... Les autres sites restent sur la région, le département. Il n'y a aucune raison à ce qu'on délocalise ou qu'on ferme Sevel Nord et Aulnay. Du travail en or, mais bon, c'est toujours le même souci des capitalistes, donc c'est toujours comment faire plus de profits. comment on délocalise les boîtes hein, pour faire leur produire à leur marge. Donc nous on est là aujourd'hui pour se battre, pour que ce site reste et qu'on crée des emplois.
Revendiquer les départs retraites qui ne sont pas remplacés, licenciements abusifs. Qu'est-ce qu'il y a encore plein de choses les patrons qui nous exploitent avec la polyvalence, polycompétence, et on ne se fait même pas remplacer, ils tirent dedans, ils veulent revenir à la chambre patronale sur les 3 jours de carence, il y a beaucoup de choses.
C'est quoi la polycompétence ?
Polycompétence,
ça sert à
ça
sert quoi avec ça ?
Avec ça, ben, il sert de ça pour, une personne qui a un statut, par exemple, qui a les monteurs, ben, du jour au lendemain, le chef, il peut dire, bah, tu peux aller là, tu peux faire ça, tu peux faire ceci, tu peux faire
d'accord,
cela.
Ouais, d'accord. Donc, finalement, ils ont besoin de moins de...
Moins d'effectifs, voilà. Tirer sur l'effectif, licencier le maximum et...
C'est un joli mot, ça,
voilà.
Polycompétence.
Ouais, c'est eux qui disent ça, polycompétence. Ouais, après, ils disent forts. Polyvalence et voilà. Et ça, ils sont très forts. Et malheureusement, ben... Voilà, on a du mal à immobiliser parce qu'il y a aussi les gens qui ont fait une journée de grève. Ça fait une journée en moins, ils ont une vie de famille et tout. Et c'est très cher et pour eux. Et on arrive à immobiliser à l'intérieur de l'entreprise, ça veut dire chez nous, en distribuant des tracts.
Ouais.
Débrayage 2 heures au maximum, 3 heures comme ça, ça coupe la production. Je travaille dans l'aluminium à l'Ural France à Salomé. C'est un groupe belge qui a été racheté. Ils ont repris. Nous, on a été licenciés en ce temps-là, une liquidation, succession de paiement. Du lendemain liquidation, on a créé une SCOP coopérative rachetée par les ouvriers. Il y a les entrepreneurs belges qui sont venus en face et ils ont eu le monopole.
Ils sont rentrés dans la SCOP comme ça, hop.
Pas dans la SCOP, ils sont venus pour acheter l'entreprise. Et nous, on a monté un business plan. Et l'État, le liquidateur Maître Perrin, a laissé les Belges prendre l'entreprise. Ils ont repris 33 personnes, que nous, en tant que la SCOP, on reprenait 44 personnes. Et les autres derrière, hein, 19 personnes qui étaient licenciées. Un an après, on les reprenait avec le même salaire et ceci, cela. Et ils sont basés sur le critère de licenciement. Il n'y avait pas de critère de licenciement. À mon avis, ils ont tiré des noms. Alors, le dirigeant belge, il se lançait la balle avec le liquidateur. Non-respect du critère licenciement. J'étais même dans la liste des licenciés. Hein, et il ne me laissait pas accès à rentrer. Et tout, pourtant, j'étais délégué. J'avais accès...
Ouais, normalement, donc oui. t'es un salarié protégé, on
protégé,
dit.
Voilà. Et il m'attendait avec des maîtres chiens, pitbulls et tout pour m'empêcher de rentrer. Bon, on a fait la pub et ceci, cela, ramener les médias et tout. Du jour au lendemain, il m'appelle, oui, vous pouvez rentrer dans l'entreprise.
Il flirte avec la loi aussi, quoi.
Voilà. Avec le 440, laisse tomber. Hein. Et les salaires, allez, on augmente le pouvoir d'achat, à autant l'électricité, tout l'alimentation et tout, et pour avoir des salaires de misère.
Okay.
Voilà. Okay. On est là, bon, on vit, travailler plus, comme il disait Sarkozy, mais travailler plus pour se faire enculer plus, je trouve. Excuse-moi de l'expression.
Bah, en fait, on est ici pour Savelle-Nord, on a su que l'arrière, il nous cachait qu'en 2017, vous allez fermer Savelle-Nord. Donc nous,
ils l'ont carrément annoncé.
Bah, ils ont caché et apparemment les délégués CGT les ont aperçus, ils l'ont caché. Donc apparemment ils devaient sortir ça après les élections conditionnelles en 2012. Donc ils nous cachaient bien. Nous on est sous-traitants, on travaille pour FNW.
On peut marcher en même temps.
Oui, bien sûr. Sachant que nous, directement sur l'usine de Douai, SNWM, on est impacté à 20% de notre chiffre d'affaires. Donc 20% de notre chiffre d'affaires, ça représente, si jamais c'est même refermé, 80 personnes dehors.
Toi, tu travailles où, toi ?
SNWM Douai.
Ça dépend de ces valeurs ?
Oui, on travaille pour eux, on est sous-traitant en fait.
Hein. Ok, d'accord.
On est un sous-traitant, donc voilà. En sachant ça, ben, c'est normal qu'on est présent, qu'on les soutient, et puis en espérant que c'est la première manifestation, donc on repartira en septembre, et puis en espérant qu'on sera beaucoup plus que ça, et que surtout ces événements, bien joué. Donc, bon, une quinzaine, c'est déjà ça, mais...
Ils sont nombreux aussi.
Oui, c'est quand même une grosse usine. Hein, ouais. Et en sachant que si jamais Savelle-Nord arrivera à une fermeture, ça serait la première fois en France que ça arriverait à un constructeur fermer les portes. Donc, premièrement, pour laisser faire, et puis, deuxièmement, ça représente entre 9 et 11 000 suppressions d'emplois. Que pour l'automobile. Et si jamais ça fermait, après il y a tous les transports, il y a tout ça qui est derrière. Hein, on les a. Les sous-traitants comme nous, on peut pas se permettre d'entendre ça et puis rien faire. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui.
D'accord.
Écoutez, on a connu la... Ah, bien sûr, on pense à l'avenir, surtout nous, le site de Douai, on sait le problème de se faire acheter, on est en dépôt de bilan. On s'est fait racheter par un groupe qui s'appelle Snop. Aujourd'hui, ils ont investi dans notre entreprise, refait tous les bâtiments. On a eu du travail par Renault Peugeot. On a 400 ouvriers aujourd'hui, on est à 750. Donc on ne peut plus se permettre d'être inférieur déjà à 400. Parce que pour nous, c'est inférieur à 400, ben, avec les années, ben, c'est risque de fermeture d'entreprise.
D'accord.
Donc, voilà. Non, mais sauf ça, faut se battre, faut pas laisser faire. Nous, on a un savoir-faire en France. Au niveau de l'automobile, on ne peut pas se permettre de délocaliser dans les pays de l'Est, tout ça. Quoi. Mmh. Donc, non, il faut rapporter.
Parce qu'on a su qu'à Aulnay aujourd'hui, oh, ils sont même bien à Aulnay, dans la région parisienne,
hein. Ouais.
Aulnay, ils ont débrayé. Dans l'usine, ils ont eu pas mal de débrayages.
Ouais, parce qu'on l'a annoncé officiellement.
Aussi.
Voilà.
Ouais, tandis que. Mais bon, après, c'est de bonne guerre, eux, la direction, elle dit, mais non, n'écoutez pas, c'est pas vrai, c'est pas la fin du monde. Voilà.
Comme on a fait à Continental et à
Saint-Denis.
Ouais, t'as tous les autres syndicats et la direction qui prêchent le contraire, quoi. Qui prêchent le contraire et minimiser. Pour pas faire grève, machin, et ceci, cela.
Okay.
Tu vois, pour contrer bah, la trouvaille, quoi. Là, s'ils ont trouvé les documents, les fameux documents.
Pourquoi on a fait un bus? Et bien simplement parce qu'il y a aussi Forestia, il y a les sous-traitants, il y a la solidarité syndicale. On gratte un peu justement, on dit métallurgie, mais il n'y a pas que la métallurgie, il y a la plasturgie, il y a les sous-traitants, il y a plein de choses.
C'est sur la question de l'emploi qu'il y a la mobilisation.
L'emploi, oui, bien sûr, oui.
D'accord.
Oui.
Et un 7 juillet quand même, sur la question de l'emploi.
Il n'y a pas de date pour combattre.
Ah, intéressant, ça me dit ça.
Mais nous, la lutte n'est jamais en vacances.
Mais nous, c'est qui?
La droite n'est pas en vacances. Regarde en début juillet ce qu'elle a fait. Et on n'est que le 7.
Mais nous, c'est qui?
C'est nous, la CGT, le travailleur.
Nationaliser les principaux moyens de production, bah ouais, ça c'est la solution.
Ça a existé un jour, hein.
Et ben, bah, il faut revenir à ça. Il faut arrêter de privatiser à tout vent. La SNCF aujourd'hui, aujourd'hui il faut fabriquer pas mal de. Il faut sous-traiter par des peuples. Mais c'est l'Europe que je veux dire. Hein. D'accord, nous on est pour donner du boulot à tout le monde. Mm-hmm. Mais derrière, c'est quand même. Ils vivent avec des capitaux, ils vivent avec aussi nos sous. Quoi.
Exactement.
Voilà, donc on aimerait bien que SNCF y reçoit un peu plus. Respectueux de l'argent qu'il reçoit. Voilà, simplement ça. Quoi.
Okay.
Après, si après il y en reste, et puis partager, nous on est euro, on est même pas européens, on est terriens, nous. Hein. Eh oh, eh oh, eh oh, hey, 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 big boss. Regarde par la fenêtre. On est là, on attend. Alors, tous ensemble, on est tous ensemble. De l'autre côté, il me semble que le patron tremble. Tous ensemble, on est tous ensemble. Il suffit qu'on s'assemble et il fuit la queue entre les jambes. Tous ensemble, on est tous ensemble. De l'autre côté, il me semble que le patron tremble. Tous ensemble, on est tous ensemble. Il suffit qu'on s'assemble et il fuit la queue entre les jambes. On ne demande pas grand chose, juste ce que tu nous dois. On voit bien qu'il y a du bénef, mais tu oses nous dire que tu ne peux pas. Écarte un tout petit peu les doigts. Je suis sûr qu'avec ce que tu as dans les mains, le peu qui tombera nous satisfera. Que si tu as bien rigolé, les grèves ça ne peut pas durer. Mais aujourd'hui regarde, on est là pour te montrer qu'on est déterminé, c'est loin d'être terminé. Enfin j'espère que tous ici sont encore prêts à lutter, sachant que tous ensemble, on est tous ensemble. De l'autre côté il me semble que le patron tremble. Tous ensemble, on est tous ensemble. Il suffit qu'on s'assemble et il fuit la queue entre les jambes. Tous ensemble, on est tous ensemble. De l'autre côté il me semble que le patron tremble. Ensemble, on est tous ensemble. Il suffit qu'on s'assemble et il fuit la queue entre les jambes. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Tu vois, on est là aujourd'hui, on est là pour de bon. C'est pas fini. Le premier jour, je suis sûr que tu te fendais la gueule en pensant que cette journée-là, ce serait la seule. Le deuxième jour, tu t'es dit, cette fois, je crois qu'ils en veulent pour de bon, et c'est vrai. Puis
puisqu'on est encore là. Bien gentil, jusqu'ici, on a fait selon tes envies. Tu as bien ri, mais aujourd'hui, on pose nos caisses à outils.
Qu'est-ce que t'en dis?
On se met assis, on plante les piquets de grève ici. Et on attend, on verra bien ce qui se négocie. Sachant que
tous ensemble, on est tous ensemble. De l'autre côté, il me semble que le patron tremble. Tous ensemble, on est tous ensemble. Il suffit qu'on s'assemble et il fuit la queue entre les jambes. Tous ensemble, on est tous ensemble. De l'autre côté, il me semble que le patron tremble. Tous ensemble, on est tous ensemble. Il suffit qu'on s'assemble et il fuit la queue entre les jambes.
Qui t'a placé là où tu es?
Qui te rapporte autant de blé?
Qui sont ceux qui sont en bas?
Ceux que tu as oubliés?
Et qui sont ceux qui, une fois assemblés,
font autant trembler?
Ce sont ces mêmes gens que tu voudrais diviser pour pouvoir mieux régner.
Et là, tu t'en rappelles,
faut dire que t'as pas le choix.
On fout la merde dans ton business,
et ça ne te plaît pas.
La prochaine fois,
tu y penseras avant que ça aille jusque là. En attendant,
au nord, au sud, à l'est, à l'ouest,
c'est le même combat.
Tous ensemble, on est tous ensemble.
De l'autre côté, il me semble que le patron tremble.
Tous ensemble, on est tous ensemble.
Il suffit qu'on s'assemble et il fuit la queue entre les jambes.
Tous ensemble, on est tous ensemble.
De l'autre côté, il me semble que le patron tremble.
Tous ensemble, on est tous ensemble.
Il suffit qu'on s'assemble et il fuit la queue entre les jambes.
Tous ensemble, on est tous ensemble.
De l'autre côté, il me semble que le patron tremble.
Tous ensemble, on est tous ensemble.
Il suffit qu'on s'assemble et on fuit la queue entre les jambes.
Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pensez de Radio Campus?
C'est des putains de camés de mes couilles, des putains de hippies, des putains de surfeurs, des putains de chômeurs de merde, putain!
Radio Campus 106,6, à l'image de ses auditeurs.
Mes fils, ma petite fille, ma femme. Pour moi, se joue aujourd'hui le drame de savoir comment je vais faire pour continuer à vous donner la chair. Je n'ai plus ni d'argent ni d'outils et tous les voisins nous oublient. Depuis bien longtemps, je me bagarrais avec les copains de mon atelier pour un mois de mai cent ans des cerises. C'était grâce à vous, pour vous, ma mise, que je sacrifiais des soirées entières pour préparer la vraie vie sur terre. J'ai bien cru notre grand jour arriver, quand un soir de mai qu'on a occupé les usines, les machines et les ateliers, c'est moi qui ai eu l'honneur d'enfermer le patron et ses associés. Ça clique dans le grand bureau, c'était magnifique. Pendant cinq semaines, on a gouverné. C'était presque le vrai pouvoir ouvrier. Tous nos braves seigneurs s'étaient planqués, ou bien ils s'étaient mis à nos côtés, mais ils ont vite repris le dessus, et moi, ils m'ont vite jeté à la rue. Ma femme, je vais aujourd'hui te quitter, te laisser trouver un autre marié qui, sûr, te fera plus belle la vie. Mes fils, ma petite fille, c'est fini. Vous allez rejoindre prendre l'assistance. Moi, je vais courir toute la France pour me refaire des amis nouveaux, pour un soir de mai, le vrai, le plus beau.
Un quart d'heure en Palestine.
Il est 19h02 et 3 minutes. Vous écoutez Campus sur le saucisse pochiche et c'est l'heure de le mettre. Et vous l'avez compris en écoutant le générique, c'est le quart d'heure en Palestine. Le quart d'heure en Palestine, nous avons aujourd'hui Michel Siboni, qui est porte-parole de la campagne Un bateau français pour Gaza, un bateau qui va participer à la flottille qui est bloquée en ce moment en Grèce, où apparemment personne, aucun bateau n'a pu appareiller. Michel Siboni, bonsoir.
Bonsoir.
La première question, c'est, j'aimerais bien que vous nous donniez une petite définition, faire connaître ce collectif, Un bateau pour Gaza, de qui il est composé et c'est quoi l'objet de la constitution de ce collectif.
Bon, je vais d'abord vous parler du collectif français, mais je vais aussi vous parler de la campagne internationale pour les bateaux, puisque le collectif français s'est organisé et a rejoint la campagne internationale des bateaux pour Gaza, la flottille 2 de la Liberté. Le collectif français s'est organisé à partir d'abord du collectif national pour une paix juste entre Israéliens et Palestiniens, qui est constitué de plusieurs partis politiques, plusieurs syndicats français, des grands syndicats français, plusieurs associations des droits de l'homme, associations issues de l'immigration, associations françaises et associations un peu, je dirais, spécialisées sur la Palestine, comme l'AFPS, Association France Solidarité Palestine, Génération Palestine, les missions civiles, campagne civile pour la protection du peuple palestinien, la GUP.
CAPJPO, etc.
Non, CAPJPO ne fait pas partie du collectif qui s'est organisé et constitué autour de la flottille. Donc, on a ce collectif, on a la plateforme des ONG pour la Palestine. Grande plateforme d'ONG avec des grandes ONG comme le CCFD, comme la CIMAD, mais beaucoup de collectifs. On a la campagne Agrexco qui a rejoint, la campagne contre Agrexco, qui est une campagne qui est en passe de devenir européenne aujourd'hui, mais qui est au départ française, contre l'installation d'Agrexco Asset, le principal exportateur israélien de produits agricoles.
Produits agricoles souvent issus des colonies.
Issus des colonies, d'après Agrexco eux-mêmes, à 70% de leurs exportations.
Ce qui est considéré comme crime de guerre.
Exactement. Et comme illégal.
Alors...
Donc voilà, on a un collectif avec dedans pratiquement tous les partis politiques à la gauche du PS, le PC, le NPA, les Verts écologie, j'ai peur d'en oublier évidemment, la FAS, on a la CGT, on a Solidaires, dans les grands syndicats, voilà.
Alors, quelle est la situation actuelle, là, en Grèce? La situation de la flottille en général et des deux bateaux français en particulier?
Alors, on était au départ dans une dizaine de bateaux, américains, canadiens, nord-européens, sud-européens, dont deux bateaux français. D'accord?
Oui.
Au départ, 9 sur 10 de ces bateaux ont été bloqués à Athènes par le gouvernement grec, qui a servi de garde-côte en Méditerranée aux Israéliens, et donc étant le blocus en Méditerranée, ce qui est hallucinant. Un des deux bateaux français avait réussi à se faufiler. Peut-être parce qu'il est petit et qu'il est malin, mais il avait réussi à se faufiler. Il a tenté une première sortie dans les eaux internationales, il a été ramené à quai en Crète par les gardes-côtes grecs qui l'ont arraisonné, et il ne lâche pas l'affaire. Il est quasiment le seul aujourd'hui à être en situation de ne pas lâcher l'affaire, et en tout cas en situation de tenter une sortie.
Il est légalement en situation de pouvoir le faire, puisque d'après les informations que j'ai... Allez-y, vous nous les donnez, parce que j'allais vous poser la question. Où en est la situation d'Al-Karama?
Je vais commencer par un préambule pour que les auditeurs comprennent la situation. Il faut m'excuser si je ne suis pas précise. Nous sommes dans une situation à risque, à haut risque, et tout le monde le sait. Donner trop d'informations publiques à des moments aussi tendus que celui-là, c'est prendre des risques pour le bateau lui-même. Donc vous comprendrez quand je suis vague, que je ne suis pas vague par plaisir, mais parce que nous avons tous ordre et mission de protéger ce qui pourrait être la dernière tentative possible. D'accord ?
D'accord, on a compris.
Quand le bateau a été arraisonné en Crète, le Dignité Al-Karamé, il y a eu le harcèlement grec habituel qui est « prouvez-nous que vous avez des autorisations de naviguer ». Ils ont fourni toutes les autorisations, ça suffisait jamais, jusqu'au moment où le consul français d'Athènes a fini par dire à la capitainerie, écoutez, on vous a assuré par tous les moyens possibles et imaginables que ce bateau a toute autorisation à naviguer normalement, maintenant si vous voulez l'interdire vous, prenez-en la responsabilité. Ce que les Grecs n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'en principe, il a le droit de naviguer en Méditerranée, ce bateau. L'interdit de naviguer vers Gaza est maintenu par les Grecs. D'accord ?
Oui.
Mais en même temps, il est contradictoire avec avec l'autorisation de naviguer en Méditerranée. Je suppose, et vous le comprendrez, que c'est là qu'il y a une petite brèche qui peut être ouverte. Ce bateau, étant donné qu'il est la seule chance qui reste à cette flottille aujourd'hui de maintenir son cap, c'est à reconstituer son équipe en s'internationalisant et de manière extrêmement représentative. Je peux vous donner quelques détails sur cette représentation.
Oui, allez-y, ça nous intéresse, savoir qui est dedans.
Voilà, je ne sais pas si je vais vous donner des noms, mais au moins des compositions.
Oui, c'est ça.
Vous avez le représentant de la campagne du bateau pour Gaza suédoise, vous avez un représentant d'Europe Écologie Les Verts, vous avez une représentante du collectif 14 de la région de Caen, qui est aussi membre de la FPS et des Femmes en Noir, vous avez un député honoraire français... vous avez un navigateur français connu, vous avez les deux porte-parole de la campagne à bateau français pour Gaza qui sont sur ce bateau, qui représentent au-delà de la campagne qui sont issus l'un de la FPS et l'autre des missions civiles. Vous avez un représentant du collectif 69 de la région de Lyon, vous avez un représentant de l'immigration, si je peux dire, de la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives, la FTCR. Vous avez un représentant de la campagne grecque et un des dirigeants de la campagne internationale. Vous avez un acteur espagnol qui est membre de la campagne espagnole. Vous avez évidemment l'équipe de marins et capitaines. Et vous avez deux journalistes. Une journaliste, je peux citer son nom, c'est Amira Haas, qui est une journaliste israélienne, qui était sur le bateau canadien, mais puisque le bateau canadien n'a pas pu partir, qui a rejoint ce bateau. Et un journaliste d'Al Jazeera qui est présent à bord.
Et le journaliste de Libé n'y est plus.
Non, il faut comprendre que les gens sont partis...
pour des obligations de travail.
Restés deux semaines, voire presque trois, bloqués en Grèce. Il y a beaucoup de gens qui ont dû se déplacer. Ça a été une des difficultés de recomposer un équipage représentatif, à la fois de la campagne française et au-delà... Ce navire porte les espoirs de la campagne internationale, donc on a tenu à l'internationaliser un peu, à ce qu'il y ait des représentants de bateaux qui n'ont pas pu partir, ou d'États, ou de pays qui n'ont pas pu être représentés. Et c'est cet équipage-là qui, très certainement, va tenter de réaliser, de porter les espoirs de tout le monde.
Donc l'idée de
même si c'est symbolique parce que c'est un petit bateau, mais si vous voulez, on tient à montrer que de toute façon, contre les États et la volonté des États et de nos gouvernements réunis, nous ne sommes que des représentants de la société civile. Nous n'avons pas la force des États, mais nous tiendrons bon et nous tiendrons le cap vers Gaza. Et si on n'y arrive pas cette fois-ci, c'est pas grave, on a réussi quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a réussi à ramener Gaza au cœur de l'actualité. Alors que vous n'êtes pas sans savoir, comme tout un chacun en France, que Gaza, dans les médias, moins on en parle et mieux on se porte. Or nous, ce qui compte pour nous, c'est qu'on parle de Gaza. Et que Gaza soit présent dans les esprits et dans les cœurs des gens et dans la volonté général de la société française, mais pas seulement française, je crois, vraiment des opinions internationales, de dire ça suffit. 5 ans de blocus sur une population civile, c'est une punition collective, c'est aussi un crime de guerre, c'est inadmissible, rien ne peut justifier un tel blocus, et nous nous battrons jusqu'au bout. Cette campagne, pour nous, c'est une étape. Nous avons été bloqués à Athènes, le dignité Al-Karamé tentera, il réussira ou il réussira pas, c'est pas la question. Ça ne s'arrêtera pas là. Il y aura d'autres flottilles, il y aura d'autres actions. Nous ferons tout pour maintenir Gaza au cœur de l'actualité et dans les esprits et devant les yeux. Gaza existe, Gaza doit être libre.
Comment expliquer que cette fois-ci, la pression israélienne ait pu fonctionner à ce point-là?
Vous savez, il faut l'expliquer à l'envers, à mon avis. C'est pas la pression israélienne qui peut fonctionner. C'est la volonté des États qui s'accordent avec Israël.
J'allais en parler, mais après, oui, évidemment.
La réalité, c'est qu'un battement de cils américain, par exemple, ferait taire Israël, si les États-Unis le souhaitaient. Un battement de cils mettrait Israël au pas, à la seconde où il s'exercerait. Un battement de cils de la communauté européenne, de l'Union européenne, si elle décidait juste d'appliquer les outils qu'elle a en main, et qu'elle a toujours eu en main, Israël a une situation d'amis et d'alliés exceptionnels de l'Union européenne, qui a été fabriquée par l'Union européenne. Il suffirait que l'Union européenne dise, article 2 de l'accord d'association d'Israël avec l'Union européenne, l'accord commercial, respect des droits de l'homme, Israël, vous respectez pas les droits de l'homme, on suspend l'accord d'association. Et Israël est obligé de s'arrêter à la seconde. Il n'a pas les moyens de faire autrement. La réalité, on comprend bien la détermination du gouvernement israélien, le plus à droite de son histoire aujourd'hui. Évidemment, il fera pression. Le problème n'est pas qu'il fait pression. Le problème, c'est qu'il travaille avec des alliés. Des alliés qui sont d'accord avec lui, qui n'ont jamais fait pression sur Israël, qui exercent par contre des pressions sur ses propres sociétés civiles pour les empêcher d'aller dans le sens du droit. On est dans une situation d'exceptionnalité. Il faut bien comprendre qu'à un moment donné, il faut se retourner vers ses propres gouvernements en Europe et dire « Mais attendez, vous faites quoi? Vous soutenez qui ?» Dans les faits, parce que dans les mots, on est bien d'accord, on a toujours droit au discours lénifiant au Quai d'Orsay, nous voulons exercer des pressions douces sur Israël. Des pressions comment? Des pressions douces? Ni pression douce, ni pression dure. Il y a zéro pression exercée sur Israël. Et quand Israël demande quelque chose, on s'empresse de le lui donner. Donc c'est pas Israël qui mène la danse. Israël mène la danse avec des danseurs tout à fait d'accord avec lui pour la danser, cette danse.
La situation à Gaza, certains la qualifient comme situation non humanitaire, qu'il n'y a pas d'urgence humanitaire. Humanitaire au sens, strict du terme, quoi. Que les gens ne meurent pas de faim dans les rues et que la flottille n'a pas à avoir lieu. Est-ce que vous considérez que votre geste, vous, le fait d'aller briser ce blocus est un geste humanitaire ou c'est une question purement politique?
Les deux, mon général. C'est d'abord un geste politique. Il est hors de question d'accepter qu'un blocus, qui est un acte politique, illégal aux yeux du droit international, se poursuive pendant 5 ans contre une population civile. C'est un crime de guerre, Israël se met hors la loi en le faisant, il faut absolument que la communauté internationale le reconnaisse, l'admette et exige la levée du blocus. Et ça, c'est politique. Cela dit, pour les gens qui auraient des doutes, parce qu'on est quand même dans de la propagande de bas étage, OCHA, la représentation de l'ONU à Jérusalem, vient de sortir aujourd'hui, hein, en juillet 2011, les faits, la réalité des faits sur Gaza. D'accord ? Alors, moins de 50% du 1 600 000 personnes qui vivent à Gaza ont moins de 18 ans. 38% des Gazaouis sont considérés vivant dans la pauvreté. 31% de la population active de Gaza est au chômage. 47% de la jeunesse est au chômage. 54% des Gazaouis sont en insécurité alimentaire. 75% dépendent de l'aide internationale. Je peux continuer à vous lire cette liste. Elle est accessible. Il suffit de taper OCHA, O-C-H-A, Gaza, et vous tombez sur le dernier bilan fait par des représentants de l'ONU, par des représentants de l'UNRWA et par des représentants de toutes les grandes ONG mondiales.
C'est le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. L'OCHA, c'est l'abréviation américaine, je pense, anglaise.
Oui, exactement.
Mais on parle du blocus, quand on parle de blocus, on fixe Gaza et on se tourne uniquement vers Gaza, alors que le blocus, maintenant, il touche la Cisjordanie. En d'autres termes, il touche tous les Palestiniens. Puisqu'on interdit la circulation aux internationaux et des internationaux qui sont interdits de séjour en Cisjordanie, on leur interdit l'accès à la Cisjordanie. Ils sont arrêtés, emprisonnés, humiliés, tabassés, etc., etc. Il y en a beaucoup qui sont encore en prison. Ils sont là depuis le 8 juillet, si ma mémoire est bonne.
Exactement. On est devant une réalité qui est de plus en plus explicite. C'est à cela qu'aura servi ce mois de juin et juillet. C'est à mettre en évidence une réalité explicite qui est d'abord que les Palestiniens sont privés du droit de circulation. Je veux dire, au terme des accords signés à Oslo, le passage de Cisjordanie à Gaza doit être garanti pour les Palestiniens. Il ne l'est évidemment pas, et depuis des années maintenant. Les Palestiniens sont enfermés, n'ont pas le droit de sortir. Aujourd'hui, on a des représentants d'associations des droits de l'homme palestiniens qui sont interdits de sortie, mais depuis des années déjà. Ce que nous avons, les opinions européennes, réussi à mettre en évidence aujourd'hui, c'est que c'est aussi de notre côté que l'interdiction fonctionne. C'est-à-dire, le blocus est réellement total. Il ne vise même pas que les Palestiniens. Eux n'ont pas le droit de sortir, mais nous non plus, nous n'avons pas le droit d'aller les voir. C'est-à-dire que la volonté est une volonté d'isolement qui n'a évidemment rien à voir avec les soi-disant déclarations de paix ou de volonté de paix israélienne.
Le mur est illégal depuis ses débuts. La Cour internationale de justice l'a condamné comme tel. C'est depuis 2004. Il est toujours là. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la communauté internationale? Cette communauté internationale qui danse sur les rythmes que joue le gouvernement israélien.
Écoutez,
à propos de ce mur.
Nous savons aujourd'hui que la communauté internationale ne fera rien sans la pression citoyenne. Elle l'a démontré. L'arrêt de la Cour de justice internationale sur le mur demandait expressément noir sur blanc aux États garants de son existence à cette Cour de justice de mettre en action, de mettre en œuvre des sanctions et des moyens de pression sur Israël pour qu'il cesse la construction de ce mur illégal. Rien n'a été fait. Rien du tout. Ils ne feront rien. C'est là que je vous dis, c'est pas Israël qui mène la danse. C'est une danse, on dit en anglais, you need two to tango. Ils sont deux. Il y a des États avec une volonté qui est de maintenir la situation et de soutenir Israël. Et c'est cette volonté-là qui ne peut être contrecarrée aujourd'hui que par une pression forte de la société civile. Et qui paye ses fruits.
Mais ici, au niveau local, je veux dire, au niveau national, ça paye pas beaucoup. Je veux dire, le gouvernement maintient son soutien inconditionnel à Israël.
C'est vrai. En même temps, jamais Israël n'a été dans une telle panique. Toute l'année, Israël a fait des réunions d'exception, des cellules de crise sur l'affaire du boycott, sur le BDS. Ils viennent de sortir une loi qui sanctionne les Israéliens qui appellent au boycott de l'intérieur. Ils sont, Agrexco est au bord de l'effondrement financier, pour ne parler que d'elle. Ça, c'est une information interne à Israël. Israël s'est agité dans tous les sens autour de cette flottille dont il avait peur, comme si c'était une armada orientée vers lui pour venir l'attaquer avec des canons, alors qu'il ne s'agit jamais que de militants pacifiques qui vont à Gaza apporter leur solidarité politique et humaine et qui n'attaquent pas Israël. Ils se sont comportés comme s'ils étaient attaqués par le monde entier. Donc, cette panique-là, qui s'est quand même traduite par un des éditoriaux d'un des trois grands journaux israéliens qui disait, au moment où les militants ont été bloqués à l'aéroport israélien et où ils les ont fait bloquer dans les aéroports français, qui disait « nous sommes en train de devenir cinglés ». Ce sont les termes de l'éditorial. « Nous sommes en train de devenir paranoïaques et cinglés et nous sommes en train de vivre dans une espèce de bulle ». C'est-à-dire que au bout d'un moment, la société civile a un impact sur Israël.
Michel Siboni, vous restez avec nous, on va faire une courte pause. Une pause et vous allez écouter, vous restez avec nous un petit moment. Je reviendrai sur les suites à donner à cette campagne, puisque vous le disiez tout à l'heure en préambule, que ça réussit cette fois-ci, c'est bon. Si ça ne réussit pas cette fois-ci, on aura d'autres. On va revenir sur cette question juste après. D'accord. Avec moi dans les studios, notre ami Trévidi, qui vient de temps en temps nous dire bonjour et nous rendre visite dans le Nord. Il nous vient de Bretagne et il vient à l'occasion de la fête nationale. C'est le 14 juillet demain. Et le 14 juillet demain, il est fêté dans des villes un peu chacun à sa sauce. Et la sauce Méricourt, nos amis de Méricourt dans le Pas-de-Calais, ce sera la fête contre les exclusions et contre les discriminations. Et notre ami Trévidi et sa bande seront demain donc à la place Jean Jaurès, oui. À la place Jean Jaurès à partir de 14h30. Et je vous invite à vous déplacer en nombre. Parce qu'il y aura Zep, il y a toi.
Et Lola Lafont.
Ça se passe très très bien quand tu viens dans le Nord.
Ben, j'aime bien, ouais. Puis c'est la première fois qu'on m'invite à une fête du 14 juillet. Je crois que j'en ai jamais fait. Il faut que je vienne dans le Nord alors que j'habite en Bretagne.
Ben, on est contents, nous aussi, on est contents que tu viennes nous rendre visite. Et avec ta musicienne, là, vous allez nous interpréter quelque chose en direct.
Oui, une chanson qui s'appelle Le Cauchemar.
Le cauchemar.
Oui.
On est en plein dedans.
Et voilà. Sa Majesté n'avait pas l'air d'un cypriote, d'un Belge, un Suisse, un Écossais, mais tout bonnement, hélas, d'un de nos compatriotes. Dans mon rêve où le roi, les cons étaient français. Quand un Olibrius portait une couronne, tout son cœur on applaudissait. Nous les fiers descendants du général Cambronne, dans mon rêve où le roi, les cons étaient français. Du pont du Rang du Bois, du Val du Puy du Chêne, à nos fusils la fleur poussait. Tendant les miches à droite, tendant les miches à gauche, dans mon rêve où le roi, les cons étaient français. On prenait la Bastille, et la chose étant faite, sur la place publique on dansait, pour en bâtir une autre à la fin de la fête, dans mon rêve où le roi, les cons étaient français. Entre le coup de chien, on s'occupait de fesses, on s'embrassait, on s'enlaçait, afin que les cocus continuent à l'espèce, dans mon rêve où le roi des cons était français. Quand je sautais du lit, que j'entendis la somme de balivernes qui fleurissaient, j'eus comme l'impression d'être pas sorti de mon somme, de mon rêve où le roi des cons était français. Sa Majesté n'avait pas l'air d'un cypriote, d'un belge, un suisse, un écossais, mais tout bonnement, hélas, d'un de nos compatriotes, dans mon rêve où le roi des cons était français. Dans mon rêve où le roi des cons était français. Dans mon rêve où le roi des cons était français. Parole inédite de Georges Brassens. Il n'a jamais changé.
Trévidi, qu'on retrouvera demain avec Zep et j'oublie toujours, non, je ne l'ai pas noté.
Lola Lafont.
Lola Lafont, place Jean Jaurès à Méricourt, c'est juste à côté des Nimbomont, donc vous êtes à 25 ou 30 minutes de Lille. Je reviens vers notre invité du téléphone, Michel Siboni, porte-parole de la compagnie Un bateau français pour Gaza. Je voulais poser des questions sur là aujourd'hui, depuis le 8, il y a des Français qui sont malmenés par Israël, et je n'ai toujours pas lu quelque part que l'État, le chef de l'État ou le ministre des Affaires étrangères allait intervenir pour dire à Israël: arrêtez d'emmerder nos compatriotes.
Il y a eu des réponses du Quai d'Orsay qui a été interrogé là-dessus et qui a indiqué qu'il est intervenu à plusieurs reprises et que le consul de France à Tel Aviv est intervenu à plusieurs reprises. Mais comme vous voyez, il semblerait s'agir d'interventions de forme, très polies. On cherche à savoir ce qui se passe. On indique peut-être qu'il faut bien traiter les Français, mais il y a une volonté de ne pas hausser le ton, alors qu'il s'agit de citoyens qui n'ont rien fait d'autre que d'exercer le droit le plus élémentaire d'un citoyen français, qui est de prendre un billet d'avion, de se rendre à l'aéroport avec son passeport et de voyager vers Israël, et il n'est pas interdit aux Français, a priori, d'entrer dans les territoires occupés. Donc, on a de nouveau, de manière flagrante, la démonstration que nous avons un gouvernement, qui n'exerce pas de pression, De la même manière que sur Salah Hamouri, vous connaissez l'histoire de Salah Hamouri, le franco-palestinien qui a été jugé par un tribunal militaire d'exception, donc illégal, qui est en prison pour 7 ans en tout, sur un vague procès d'intention sans preuve, et sur lequel on a demandé des... Il y a un collectif qui s'est constitué de défense de Salah Hamouri. On a demandé 1000 fois, pas 100 fois, 1000 fois au gouvernement français de hausser le ton. Il se contente de suivre avec beaucoup d'attention la situation de Salah Hamouri, parce qu'il considère qu'Israël est un état de droit et qu'il ne peut pas interférer dans sa justice.
Et l'état de droit arrête des citoyens français qui débarquent comme ça pour faire du tourisme, ou supposons que tous ces Français-là allaient à Bethléem pour prier. Donc je ne vois pas qu'on interdirait aux Français d'aller prier à Bethléem.
Non, ils ont dit qu'ils répondaient à l'appel de leurs amis palestiniens pour une journée de manifestation pour l'anniversaire de la construction du mur illégal.
Comment expliquer que des compagnies aériennes aient répondu présent et empêché que des gens se dirigent, enfin, volent sur leurs avions pour se diriger vers Tel Aviv? Et ça se passe sur le territoire français. Les checkpoints, ils sont plus là-bas, ils sont ici à Roissy.
Voilà, on a un déplacement des checkpoints, effectivement. Et je vous dis, la situation d'aujourd'hui est vraiment intéressante grâce aux actions de la société civile française notamment, parce qu'elle met en évidence quelque chose d'incroyable. C'est que finalement, les citoyens de Gaza On est en train de nous expliquer qu'il suffirait de les nourrir pour que les choses soient réglées, comme si c'était des animaux dans une grange et que, comme si les droits humains ne dépassaient pas la stricte obligation alimentaire, comme si c'était pas la liberté de circulation, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Mais ce qui est en train d'être mis en évidence aujourd'hui, c'est que nos propres droits, et ça fait longtemps qu'on le savait, les militants sur la Palestine, ça fait longtemps qu'ils font des liens entre la privation de droits là-bas et la baisse des droits ici. Nous sommes dans une Europe largement de droite, largement néolibérale.
On n'entend pas beaucoup les socialistes européens en général, les Français en particulier, parler ou prendre position concernant la flottille.
Non, pas du tout, on ne les entend pas. Il y a eu quelques élus qui ont signé les appels à titre personnel, hein, mais en tant que parti socialiste, non.
Il n'y en a aucun.
Non.
Alors, on va peut-être clore, pas tout de suite, mais je vous laisse le temps de nous dire les actions que vous préparez et que vous pouvez dire sur antenne, hein, je ne parle pas des autres.
Écoutez, ce qui semble évident, c'est que la mobilisation qui s'est produite autour de la flottille internationale a permis plusieurs choses. Elle a permis, entre autres, pour pouvoir coordonner cette action à plusieurs pays, en partant du Canada et des États-Unis et dans toute l'Europe, elle a mis en place, au fond, des structures qui font qu'aujourd'hui, il y a une coordination acquise des mouvements européens, voire plus les États-Unis et le Canada, et même beaucoup d'Asie du Sud-Est et aussi d'Amérique latine, et même du monde arabe. D'accord ? Donc cette coordination, qui est très lente à construire, etc., elle a marqué des points maintenant. Elle est constituée. Elle peut continuer à travailler sur des actions globales. Une autre chose, c'est que la campagne BDS pour le boycott des investissements et sanctions, qui répond à l'appel de la société civile palestinienne de 2005, a pris son essor après l'opération Plomb durci sur Gaza, après la guerre, l'opération monstrueuse sur Gaza qui a coûté la vie de 1500 personnes, avec l'usage d'armes interdites, avec la destruction d'écoles, de lieux de culte et d'hôpitaux, etc. Ça a lancé la campagne BDS, pratiquement. Ça lui a fait prendre vraiment un essor de développement. Je crois qu'on ne peut pas douter que ce qui va marquer la rentrée après l'été de toutes ces affaires-là et de tout cet été-là, ça va être un deuxième cran dans la campagne BDS. C'est évident, les gens sont prêts, les gens sont très déterminés. C'est le moyen de pression dont dispose la société civile et elle l'utilisera jusqu'au bout.
Alors, vous allez mener campagne pendant la campagne présidentielle, vous allez mener campagne BDS et adresser aux candidats potentiels.
Nous allons continuer à développer et nous adresserons, comme nous l'avons déjà fait d'ailleurs, nous réadresserons à tous les élus pour leur demander leur position claire. Vous sanctionnez ou vous sanctionnez pas Israël? Si vous sanctionnez pas Israël, parce qu'au fond, BDS, ça veut dire boycott des investissements et sanctions, mais il n'y aurait pas ni de B ni de D. S'il y avait eu S, s'il y avait eu sanctions, la situation serait réglée. S'il y a des sanctions officielles demain contre Israël, Israël sera obligé de rejoindre le droit international et de respecter la loi, et on avancera. Il n'y a pas de sanctions. Tant qu'il n'y a pas de sanctions, la société civile s'estime en droit de pratiquer le boycott et le désinvestissement, et d'appeler au désinvestissement de toutes les sociétés et de toutes les entreprises européennes, internationales et israéliennes qui profitent de l'occupation. J'ai envie de vous citer le travail de la Coalition des femmes pour une paix juste en Israël, qui est une coalition qui se retrouve aujourd'hui par la loi qui vient d'être votée en Israël directement dans le collimateur, parce qu'elle a mis en place un site internationalement consulté et internationalement utile qui s'appelle « Qui profite de l'occupation ?» et qui informe de manière très très précise sur toutes les sociétés qui travaillent et qui tire profit de l'occupation et de la colonisation. Il faut aller sur ce site, voir le travail qui est fait, et la plupart des mouvements du BDS dans le monde utilisent ce site, entre autres, bien sûr, j'ai donné cet exemple, parce que c'est un exemple qui est aujourd'hui d'actualité, puisque ces femmes et cette campagne va être dans le collimateur direct de la loi israélienne. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Il faut que demain, on comprenne que travailler avec qu'un accord de coopération universitaire avec une université israélienne, par exemple, là, je tiens quand même à préciser une chose, c'est que à partir du moment où vous ne m'interrogez plus sur la flottille, je vous parle comme Michel Siboni, vice-présidente de l'Union juive française pour la paix, et non plus comme porte-parole de la flottille internationale.
D'accord.
Nous sommes bien clairs, hein.
D'accord.
Ou de la flottille française. Mais il faut savoir aujourd'hui que si une université, dans votre région par exemple, signe un accord de coopération quelconque avec une université ou un institut technologique israélien, il faut d'abord qu'elle se renseigne. Or, nous avons aujourd'hui tous les moyens de l'informer sur le fait qu'il n'y a pas une seule université ou un seul institut technologique israélien qui ne travaille pas directement en lien avec l'occupation et la colonisation. Il faut mettre ça sur la table aujourd'hui. On va arrêter de nous baratiner sur la coopération tripartite. Pour aider un Palestinien, il faut aider une université israélienne. On n'aide pas une université israélienne qui a une base militaire sur son campus et qui donne des bourses spéciales aux gens qui sont allés à Gaza pendant l'opération Plomb Durci. C'est un scandale de faire ça. C'est un scandale, c'est immoral, c'est faux politiquement, ça ne respecte pas le droit. Un artiste aujourd'hui, on nous dit vous faites pression sur des artistes. Non, nous ne faisons pas pression sur des artistes. Nous informons aujourd'hui qu'un artiste qui va chanter ou se produire en Israël participe directement de la propagande israélienne à l'étranger, qui cherche à faire croire qu'Israël est un pays comme les autres. Non, Israël n'est pas un pays comme les autres. Israël est un pays qui occupe illégalement, qui colonise illégalement, qui détruit et qui tue et qui enferme en prison illégalement, et qui pratique un boycott et un... Oui, c'est un boycott, qui pratique un boycott et un blocus totalement illégitime sur 1 600 000 personnes, hommes, femmes et enfants, qui ont les mêmes droits que nous. Ce sont des êtres humains, ils ont les mêmes droits que tous les êtres humains sur la planète. Nous continuerons.
Michel Siboni, donc vous avez donné le titre du site tout à l'heure, c'est vraiment le nom. Mais qui profite?
C'est en anglais, Who Profits the Occupation.
Who Profits the Occupation.
Who Profits the Occupation.
Et c'est en anglais? Il n'y a pas l'équivalent français ou il y a des textes en français?
Je pense qu'ils ont des traductions textes en français, mais il faut entrer sur le site en anglais d'abord.
D'accord. Est-ce que un bateau français pour Gaza, est-ce que vous avez un site ou quelque chose, ou un lien quelconque où on peut aller se renseigner?
Bien sûr, il y a un site. Alors, attendez, moi je ne suis pas très bonne pour retenir les sites pour mémoire, mais c'est... un bateau français pour Gaza.
On tape un bateau français pour Gaza et on tombe sur le site. Vous avez évoqué l'UJFP, donc vous pouvez donner aussi le site de l'Union juive française pour la paix.
C'est ujfp.org.
C'est aussi simple, ujfp.org. Merci Michel Siboni et bon courage. Et pour la rentrée, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre campagne.
Je vous en prie, merci beaucoup et bon courage à nous tous.
Hein. Merci, bon fin d'après-midi et puis bon week-end. Merci. Au revoir. Alors, je reviens à notre invité du studio, Olivier Trévidi. Oui. Olivier, tu as l'intention de nous chanter une autre? La première, c'est... la première, donc, elle existe sur un des albums, c'est le dernier?
Oui, c'est une compilation que j'ai fait un peu comme ça, pour faire plus pro, pour faire plus comme tout le monde un peu. Quoi.
C'est une compilation qui est sortie il y a quelques temps déjà, maintenant.
Oui. Il y a un an et demi ou deux.
Un an et demi ou deux.
Et j'avais repris le cauchemar de Brassens que j'avais eu sur un CD, Sauve le respect que l'on vous doit, repris par Granier, le petit cousin de Brassens, et la musique de Claude Duguay, qui est décédé depuis d'ailleurs. Et j'ai fait un arrangement un peu différent, monsieur. Voilà.
Alors, des projets, des...
Ben oui, un peu l'obligation de sortir un nouvel album là, avant la fin de l'année. Ben ouais.
Avant 2011.
Avant
la fin de 2011.
Bref, avant février. Mais oui, j'ai eu des aides du conseil régional, je suis obligé là. J'ai pas le choix maintenant. C'est comme si j'avais un producteur finalement.
Producteur conseiller régional.
Oui, oui. Bah, il faut les aider des fois.
Qu'est-ce que tu as prévu de nous chanter?
En Bretagne, ils sont encore sympas. Enfin, ils sont encore sympas. Il leur reste quelques ronds dans l'orchestre. Quoi.
D'accord. Qu'est-ce que tu as prévu de nous chanter?
Je n'avais pas prévu d'en chanter une deuxième, mais on va, je sais pas. Il n'y a plus de pavé alors pour.
Vous êtes à l'écoute de Radio Campus.
J'ai pas de chanson.
Saucisse pois chiche, et c'est l'heure de le mettre. Olivier Trévidi en direct de nos studios. Il sera demain avec Lola Lafont. J'ai pas noté. Lola Lafont, Zep et Trévidi à 14h30. Place Jean Jaurès à Méricourt.
Lola Lafont, d'ailleurs, j'ai découvert l'autre jour, là, je suis allé voir sur Internet, je suis tombé sur elle était invitée chez Tadi, l'émission sur France 3, là. C'est vachement bien ce qu'elle fait. Voici une chanson, donc, qui a pour titre « Il n'y a plus de pavé ». Mais planqué au centre-ville, les bitumes ancrés dans ma zone. La plage fait place à l'amertume aux caisses brûlées par quelques mômes qui complètement déboussolés se mettent à s'auto-mutiler. Doit-on leur apprendre à l'école sur qui balancer leur peau de colle? Des profs qui approchent la soixantaine, qui à 20 ans crachaient leur haine, direct à la gueule du pouvoir, ont-ils tous perdu la mémoire? Y'a plus de pavés, y'a plus de plage, y'a plus rien du tout, y'a plus que des cons, des endormis, y'a plus que des mous dans mon pays. Où sont passés les gens ferrats, les sociétés, tu m'auras pas? Renié par nos chaînes de télé, réalité bien orchestrée. Sur ta radio, dans mon journal, à la fête de l'humanité, quand l'artiste vient d'Universal, je dis bravo, Jean-Marie Messier. Tous d'accord pour dire qu'on est con, oui, mais franchement, on n'a pas de peau. Quand on nous fabrique un mouton, à coûterie combien ces agneaux? Y'a plus de pavé, y'a plus de plage, y'a plus rien du tout, y'a plus que des cons, des endormis, y'a plus que des mous dans mon pays. Les syndicats qui autrefois osaient fustiger le patronat baissent leur froc et puis leurs bras devant le MEDEF qui a cœur joie. S'applique à flinguer code et droit sans résistance et sans émoi. Ils bricolent leur propre loi en nous disant qu'on n'a plus le choix. Notre société, elle est pourrie suite aux années un peu à gauche. Et vu nos dons post-tsunami, faut pas se plaindre, on n'est pas si pauvre. Y'a plus de pavé, y'a plus de plage. Y'a plus rien du tout, y'a plus que des cons, des endormis, y'a plus que des mous dans mon pays. Depuis le boulevard Jean Jaurès jusqu'à la Venelle Georges Brassens, quand je me balade pendant la messe, y'a plus que les routes Cadix qui grincent. Le PMU se remplit le tiroir caisse, les gens se voient prince ou princesse. Les éléphants font du tire-fesse, par stratégie ou par paresse, par stratégie. Tous ces futurs présidents ont un passé bien répugnant. Pour le présent, l'immunité nous fera au moins 50 pieds de nez. Pour le présent, l'immunité, les photons vont se rhabiller. Y'a plus de pavé, y'a plus de plage. Y'a plus rien du tout, y'a plus que des cons, des endormis, y'a plus que des mous dans mon pays. Y'a plus de pavé, y'a plus de plage, y'a plus rien du tout, y'a plus que des cons, des endormis, y'a plus que des mous dans mon pays. Y'a plus de pavé, y'a plus de plage, y'a plus rien du tout, y'a plus que des cons, des endormis, y'a plus que des mous dans mon pays. Y'a plus de pavé, y'a plus de plage, y'a plus rien du tout, y'a plus que des cons, des endormis, y'a plus que des mous dans mon pays.
Il n'y a plus de pavé. Il est 19h et c'est 46 minutes. Vous écoutez l'heure de maître, c'est le saucisse pois chiche. Alors, si vous voulez écouter la suite, et la suite, elle sera longue, ce sera demain, place Jean Jaurès à Méricourt et à partir de 14h30. Merci Trévidi et merci à la demoiselle. Rappelle-moi son prénom, s'il te plaît.
Corinne. Et demain, il y aura aussi avec nous, qui nous accompagnera, Gilles Dasparnet, qui n'a pas pu envoyer son gros instrument, qui est une contrebasse, on ne peut pas l'envoyer partout non plus, et on sera accompagné de Gilda Skornek. Et Skornek, ça veut dire grandes oreilles en plus.
Dans quelques instants,
c'est la semaine à Cuba.
C'est la semaine à Cuba.
Et le programme partagé avec nous par Radio Havana.
Par Radio Havana, voilà. Merci à vous et à la semaine prochaine. Salut.
Alors pour moi, une bonne radio, ça serait une radio où il y aurait de la musique, du jazz, de la chanson. Et puis des trucs qui bougent quoi, du rock, du rap, et aussi du reggae, un peu de classique, mais je voudrais aussi des informations.
On est bien là, dans une logique impérialiste.
Des opinions.
Moi j'ai donné mon point de vue.
Des interviews.
Moi je sais pas jamais pourquoi.
La politique quoi.
Nous qui sommes le contre-pouvoir.
Ça déconne hein.
Elle était violente cette crise.
Ça, surtout, son publicité. Mais bon, des radios comme ça, ça existe pas. Y'en a pas.
Mais t'es con, quoi.
Ce foutu mélange, c'est Radio Campus, qu'on écoute sur 106,6. Oh merde, t'as marché sur le fil du micro.
Ya Cuba tiene una planta de radio que se está ya transmitiendo toda l'América Latina.
Esta es Radio Habana, Cuba.
Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
La semaine à Cuba.
Lundi et mardi, le second secrétaire du Parti communiste de Cuba, José Ramón Machado Ventura, a présidé dans les provinces de Pinar del Río, la plus à l'ouest de notre pays, et dans celle d'Artemis, l'assemblée de bilan de cette organisation politique sur ce territoire. À Pinar del Río, les participants ont débattu de questions importantes concernant l'application des décisions prises au 6e congrès du PCC qui a eu lieu au mois d'avril. Ils ont centré leur attention sur d'importants thèmes économiques dont l'agriculture et l'élevage. L'Assemblée a mis l'accent sur divers aspects ayant trait à l'industrie du tabac, le principal secteur économique de Pinar del Río. Les délégués ont exposé de façon critique ce qui a été fait et ce qu'il reste encore à faire dans ce secteur. Pour sa part, José Ramón Machado Ventura a signalé que dans le rapport présenté par Gladys Martinez se trouvait la synthèse des problèmes qui devaient être abordés au cours de l'Assemblée.
Le moment est à l'analyse des facteurs qui nous permettront de faire plus de choses à l'inversement de la tendance au conformisme. Il faut compenser les carences. Désormais, il faudra faire les choses comme ça car l'on ne peut plus attendre, pas seulement en raison de l'âge de certains d'entre nous, mais aussi du point de vue de l'économie. José Ramón Machado Ventura a échangé des vues avec les délégués sur la nécessité de prendre des mesures préventives pour faire face aux imprévus qui se présentent et ne pas le faire pour une année, mais comme une méthode systématique de travail que doivent adopter aussi bien les dirigeants que les paysans individuels, les membres des coopératives, ceux qui ont reçu la terre en usufruit et tous ceux qui sont liés à la production d'aliments. Il s'agit de garantir la plantation de pâturage et de fourrage pour nourrir les animaux, indiqué Rogelio Ortúzar, président de la coopérative 26 juillet, car la sécheresse est un phénomène qui nous accompagnera toujours, raison pour laquelle il faut exploiter toutes les potentialités qui existent. Changer la situation avec le travail direct avec chaque paysan pour lui expliquer combien paie l'État pour les ressources matérielles mises à la disposition pour certaines cultures et pour mettre l'accent sur la nécessité de les utiliser de façon rationnelle, a-t-il relevé.
De son côté, Alberto Caballero de la délégation municipale de l'agriculture de La Palma s'est référé au rôle que doit jouer cette structure auprès des entreprises agropastorales dans l'attention à la base, car c'est là que se trouve le protagoniste du travail dans les campagnes. Le paysan et celui-ci a besoin d'une attention intégrale. José Ramón Machado Ventura a également lancé un appel à la révision des terres qui sont aux mains de beaucoup de membres de coopératives agro-pastorales et qui ne sont pas suffisamment exploitées afin de les remettre à l'État pour que celui-ci puisse les remettre à son tour en usufruit à des personnes qui en tireront le maximum de profit.
Artemisa Mardi, José Ramón Machado Ventura a mis l'accent sur l'importance qu'auront pour l'économie du pays le port du Mariel et la zone environnante. Il a souligné la nécessité d'accorder une attention particulière à ce territoire. L'Assemblée a abordé plusieurs aspects du fonctionnement des programmes économiques et sociaux. Les participants se sont prononcés pour l'obtention de rendements plus élevés dans l'agriculture et l'élevage. Les membres du Parti communiste de la province d'Artemisa se sont accordés à signaler que l'ordre, la discipline et l'exigence doivent être les prémices incontournables pour mettre en marche l'actualisation du modèle économique cubain. Après l'analyse et la discussion des thèmes soumis au débat, les délégués ont réélu Ulises Guillart au poste de premier secrétaire du Parti communiste à Artemisa.
L'amiral Armando Pacheco, commandant en chef des forces armées de la Bolivie, a indiqué ici à La Havane que son pays et Cuba, unis par les liens fraternels historiques, ont besoin d'échanges plus systématiques en ce qui concerne les forces armées. Dans des déclarations qu'il a faites au quotidien Granma, l'amiral Armando Pacheco a relevé que par la visite officielle dans notre pays, il entend resserrer les liens d'amitié avec les institutions militaires cubaines. Dans le cadre du programme de travail, l'amiral bolivien et la délégation qu'il conduit ont visité les casernes et des académies militaires des forces armées révolutionnaires de Cuba, ainsi que des sites historiques et culturels. Après leur arrivée à La Havane, les visiteurs avaient rendu hommage au patriote cubain Antonio Maceo, général de nos guerres d'indépendance du XIXe siècle contre le joug colonial espagnol, et à son aide de camp Panchito Gomez Toro au mausolée du Cacagual, où reposent leurs restes.
Mercredi, l'Association des femmes chrétiennes pour la défense de la famille et les organisations qui forment l'Alliance Martiana de Miami ont convoqué à partir de samedi une caravane contre la prétention du congressiste Mario Díaz-Balart de rétablir les fortes restrictions sur les voyages à Cuba. Les organisateurs ont rappelé que ces mesures injustes avaient été imposées en 2004 par le président Bush fils et révoquées en 2009 par l'actuel président Barack Obama. Les participants à la caravane se sont dirigés vers l'édifice où se trouvent les bureaux de ce congressiste anticubain, où ils ont remis une lettre rejetant ses tentatives d'empêcher les voyages à Cuba. La lettre indique que les restrictions sur les voyages à Cuba interdiraient de nouveau les prises de contact entre des personnes résidentes aux États-Unis et leurs proches à Cuba et établiraient de nouveaux critères étroits sur les degrés de parenté nécessaires pour pouvoir voyager à Cuba. Les organisateurs ont ajouté qu'ils ont le droit de décider quand voyager à Cuba, voir leurs proches sans restriction d'aucune sorte.
Jeudi, Cuba a relevé à Genève les progrès faits dans l'application des objectifs du millénaire qui la place parmi les pays du tiers-monde ayant obtenu les meilleurs résultats. Au cours du débat général du Conseil économique et social des Nations Unies, la diplomate cubaine Nancy Madrigal a attiré l'attention sur le fait que ces résultats favorables ont été obtenus en dépit du blocus des États-Unis et du grave impact de phénomènes naturels. La chargée d'affaires de la mission cubaine auprès des organismes internationaux à Genève a cité l'exemple du droit à une éducation de qualité qu'ont tous les habitants de notre pays. Elle a cité à ce propos les reconnaissances de l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des progrès permanents de Cuba dans ce domaine avec un rendement élevé parmi les plus remarquables du monde. Nancy Madrigal a indiqué que notre pays a atteint en moyenne une scolarité supérieure au lycée pour toute la population adulte et des programmes pour obtenir une qualité élevée dans l'enseignement moyen. Elle a mentionné, entre autres, la qualité de l'enseignement spécial à tous les handicapés à Cuba et l'aide solidaire à d'autres peuples en voie de développement.
Solidarité et santé, lundi le docteur Reinaldo Ponce, coordonnateur national de la brigade médicale cubaine au Guatemala, a relevé que les coopérants cubains de la santé se sont acquittés dignement pendant le premier semestre de cette année de leur mission solidaire et fraternelle dans ce pays. Dans des déclarations à l'agence Prensa Latina, le docteur Reinaldo Ponce a précisé que les plus de 300 spécialistes cubains continuent à travailler au Guatemala avec une approche préventive et curative ou clinique épidémiologique. Le docteur Ponce a relevé que jusqu'à présent, les coopérants cubains ont assuré la couverture médicale à plus de 13% de la population du Guatemala. C'était la semaine à Cuba.
buenas noches a los rumberos, mi visita caballero, le diré por qué. Buenas noches a los rumberos, mi visita caballero, le diré.
Yo vine pa' ver,
a la bella mujer.